le magazine des Nations Unies.
La RDC a connu ses deux premiers cas du coronavirus cette semaine. Il s'agit d'un citoyen congolais et d'un Camerounais en provenance de la France, selon le ministre de la Santé. Pour l'OMS, il n'y a pas lieu de s'agiter outre mesure. Les mécanismes ayant été mis en œuvre dans la riposte contre la 10e épidémie d'Ebola peuvent aider le pays à contenir ce nouveau fléau sanitaire mondial, estime l'organisation, a dit le porte-parole de la MONUSCO mercredi à la conférence de presse de l'ONU à Kinshasa. Toujours dans ce contexte du nouveau coronavirus, nous avons enregistré la réaction de l'organisation internationale Oxfam. Les détails dans un instant. Sur le plan sécuritaire, les FARDC et la MONUSCO intensifient leur collaboration dans le territoire de Beni. Objectif, sécuriser les populations de cette partie du pays contre l'ADF. C'est dans ce cadre aussi que les FARDC engagés aux différents fronts sont à l'école des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les 221 femmes détenues de la prison centrale de Makala ont célébré d'une façon particulière la Journée internationale des droits de la femme.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Magazine des Nations Unies. Je l'ai dit dans le sommaire, la RDC est à son tour confrontée au coronavirus. Le premier cas a été identifié et annoncé le 10 mars par le ministre de la Santé publique. Mais pour l'Organisation mondiale de la santé, les mécanismes mis en place lors de la riposte contre la 10e épidémie d'Ebola peuvent aider la RDC dans cette nouvelle bataille. Entre-temps, l'OMS appelle les populations à l'observance des mesures individuelles et collectives de prévention. Écoutez plutôt à ce sujet le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, propos recueilli par Honoré Missenga Kalala lors de la conférence de presse des Nations Unies mercredi à Kinshasa.
L'Organisation mondiale de la santé souligne que des efforts de préparation mis en place pendant la 10e épidémie d'Ebola peuvent aider le pays. L'OMS a déjà fourni un appui technique en termes d'équipement et de matériel, notamment des kits de tests de laboratoire fournis à l'INRB et à d'autres laboratoires nationaux, ainsi qu'un renforcement des capacités des équipes d'intervention rapide. L'OMS appuie également la RDC dans la surveillance, le suivi des voyageurs en provenance des pays en situation d'épidémie et le renforcement de la détection des cas suspects aux principaux points d'entrée du pays. Mais les populations peuvent observer des mesures individuelles et collectives simples et quotidiennes pour prévenir la maladie. Il s'agit entre autres de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, tousser dans un mouchoir ou dans le pli du coude, en veillant à jeter le mouchoir en toute sécurité dans une poubelle refermée par la suite et consulter un médecin le plus tôt possible si une personne développe de la fièvre ou de la toux.
Et puis, toujours dans ce contexte du coronavirus, cette réaction d'Oxfam, cette ONG internationale s'est dit préoccupée et espère que les deux cas confirmés resteront des cas isolés et que la situation sera vite maîtrisée. Le point avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Dans un communiqué publié cette semaine, Oxfam souligne des progrès réalisés pour contenir la maladie à virus Ebola qui a déjà coûté la vie à plus de 2200 personnes. Alors que ces progrès sont constatés, deux premiers cas de Covid-19 viennent d'être signalés à Kinshasa, la plus grande des villes de la RDC avec environ plus de 12 millions d'habitants. Oxfam espère que ces deux premiers cas enregistrés en RDC soient des cas isolés et soient vite maîtrisés car le virus pourrait se propager rapidement dans toute l'Afrique centrale à la suite des échanges qu'il y a entre Kinshasa et Brazzaville mais aussi avec l'intérieur du pays, a déclaré Corinne Dao, directrice pays d'Oxfam. La RDC est suffisamment préparée pour répondre à d'éventuelles épidémies, mais il ne s'agit plus d'une épidémie spécifique à un pays, mais d'une crise mondiale qui requiert une attention ferme de gouvernements et des partenaires. Oxfam s'est dit donc vivement préoccupé par ces deux premiers cas en RDC ainsi que par les potentielles propagations dans toutes les provinces du pays, poursuit le communiqué. Le travail préventif demande du temps et des ressources, mais nous savons par expérience qu'il fonctionne. Nous devons impérativement intensifier les activités de prévention, promouvoir la collaboration entre les acteurs humanitaires en partageant propageant l'information sur le virus conformément aux recommandations du gouvernement. C'est de cette manière que l'on pourra maîtriser la contamination des masses, ajoute Mme Corinne Ndao. Compte tenu des tendances que nous avons constatées dans la propagation de la maladie à virus Ebola, nous ne devrions pas attendre que Kinshasa devienne un point chaud du COVID-19 avant de nous engager avec les communautés, souligne encore la directrice pays d'Oxfam. Notons qu'Oxfam travaille déjà dans la ville de Kinshasa depuis plusieurs années, notamment dans la mise en œuvre d'un projet en eau, hygiène et assainissement dans les écoles.
Conférence de presse des Nations Unies de mercredi passé, la représentante de l'ONU Femmes en était l'invitée spéciale, Mois de la Femme oblige. Au cours de cette conférence de presse, Madame Awan Ndiaye Seck a fait part de la solidarité de son organisation envers les femmes de Beni. Suivez aussi l'extrait du message de Madame Ndiaye dans ses propos choisis par Sekombi Katondolo.
Il y a quelques semaines, une délégation des femmes leaders d'Afrique, section de la RDC, qui s'est rendue à Beni pour une mission de solidarité et pour avoir des échanges directs. C'était la première fois que ce réseau se rendait dans une mission de solidarité et à Beni. Et ce réseau étant appuyé par ONU Femmes, nous pensons que c'est également une façon de s'assurer que le message est porté aux femmes de Beni. Donc nous continuerons et dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, cela se traduira en matière, en termes plus concrets, mais nous continuons à dire aux femmes de Beni, nous saluons votre résilience, nous saluons votre courage et nous sommes solidaires avec vous dans les défis auxquels vous êtes confrontés.
Autre actualité, l'unité pénitentiaire UNPOL de la MONUSCO a organisé jeudi une visite auprès des femmes détenues de la prison centrale de Makala dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des vivres et non-vivres, dont de l'UNPOL et de l'UNFPA, leur ont été remis. Des adresses, scénettes et scènes théâtrales ont été aussi au rendez-vous, mettant en valeur les droits de la femme et surtout de la femme derrière les barreaux. Jean-Pierre Ilali Koko a assisté à événement, je vous propose son reportage.
Ambiance festive ce jeudi pour les 221 femmes détenues de la prison centrale de Makala. C'est à l'occasion de la visite de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO dans cette maison carcérale. Madame Patience Sai, responsable de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO, s'est dit soucieuse de leurs conditions de détention.
Mais ce que nous on essaie de faire, c'est que vous soyez quand même dans des conditions humaines. Donc c'est ça notre objectif.
En prison, la plupart d'entre elles ignorent leurs droits. Madame Winnie Lotofé du bureau conjoint aux droits de l'homme s'est fait le devoir de le leur rappeler.
Si on vous arrête, il faut qu'on vous fixe sur vos droits, il faut qu'on vous dise pourquoi on vous a arrêté.
UNFPI n'était pas en reste. Dans sa message, Dr. Lefred Achou.
Donc dans ce kit de dignité, il y a les bandes hygiéniques, la période de votre menstruation est délicate.
Le clou de la rencontre a été sans doute la remise symbolique des dons constitués des sacs de riz, de l'huile végétale, des seaux en plastique, des bandes hygiéniques, au moins 15 matelas et d'autres biens. Des scènes de théâtre et des chansons autour du thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes » ont agrémenté la journée.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le mois de mars étant dédié aux femmes, Mag Yuen revient sur l'entretien que nous a accordé l'une d'elles. Pascaline Palama est experte en communication et plaidoyer à Save the Children RDC. Cette ONG internationale a initié depuis 2018 un projet dénommé Bien Grandir Plus, programme sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes expérimenté ici à Kinshasa et plus précisément dans le district de la Tchangou. Madame Pascaline Palama s'entretient avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Madame Pascaline Palama, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre ONG a initié un projet dénommé Bien Grandir Plus. Alors, brièvement, parlez-nous de ce projet, madame.
Alors, le projet Bien Grandir Plus, c'est un projet implémenté dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans le district de Tchango. C'est un projet qui vise la transformation de normes sociales et celles liées au genre. Ce projet intègre le paquet d'activités de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la planification familiale et même les violences basées sur le genre. Ce projet a comme particularité de pouvoir s'adresser aux adolescents de 10 à 14 ans, la tranche d'âge qui qui depuis tout ce temps n'avait pas été prise en compte dans les interventions ciblant les adolescents et jeunes. Et vous voyez, c'est une tranche d'âge qui a plus de besoins, mais de l'autre côté, il n'y a pas de service adéquat pour répondre à tout le besoin que cette tranche d'âge présente. Et une autre particularité de ce projet, c'est que nous offrons le service de planification familiale ou de contraception aux adolescents de 15 à 19 ans.
C'est 8 mars, oui. C'est la journée internationale de la femme. C'est la femme qui est à l'honneur. Oui. Est-ce que votre projet prend en compte ou promeut l'autonomisation des jeunes adolescents des 10 à 14 ans et des 18 à 19 ans? Est-ce qu'ils sont pris en compte en ce qui concerne leur autonomisation?
Oui, effectivement, notre projet a un ancrage réel avec l'autonomisation de jeunes filles, dans le sens où nous fournissons aux adolescentes des informations pour leur donner des capacités, pour leur renforcer leur capacité de décision, par exemple dans l'utilisation de méthodes contraceptives modernes, dans l'utilisation de préservatifs, et même le pouvoir de décider s'ils doivent faire usage de la discipline positive ou non. Donc vraiment, notre projet donne des informations nécessaires pour que les adolescents puissent être en mesure de pouvoir bien se comporter dans la vie, de pouvoir prendre des décisions importantes concernant leur vie sexuelle.
Et votre projet est basé essentiellement ici dans la capitale, et vous l'avez dit à Tiangou justement. Comment assurez-vous l'encadrement de ces adolescents concrètement sur le terrain?
Ok, déjà il faut dire que nous intervenons en faveur des adolescents de deux catégories. Il y a les adolescents scolarisés et les adolescents non scolarisés. Avec les scolarisés, ce que nous faisons, c'est d'abord au niveau de l'école, nous formons les enseignants, nous leur donnons la matière indispensable pour pouvoir dispenser le cours d'éducation à la vie familiale. Et non seulement ça, nous organisons les clubs scolaires. Au niveau de clubs scolaires, nous formons les leaders des clubs pour que eux puissent organiser les activités de sensibilisation au sein du club, les activités que nous appelons communément les causeries éducatives. Ils choisissent un thème précis dans les outils que nous avions mis à leur disposition. Ils traitent entre eux, ils échangent et après, ils prennent des engagements relatifs au changement de comportement. Il y a également les clubs communautaires. Les clubs communautaires sont organisés par les adolescents non et déscolarisés. Ce sont les adolescents qui ont rompu avec les études, et donc avec eux aussi nous les encadrons avec des thématiques concernant la santé sexuelle. Ça peut être la puberté, les gènes menstruels, etc.
Oui, vous avez parlé des adolescents non scolarisés, mais je vois aussi les filles mères qui sont dans cette tranche d'âge des 18 à 19 ans. Il y a aussi des enfants de la rue. Comment vous faites pour cette catégorie d'enfants dans les prises en charge?
Il faut dire que la politique de Save the Children privilégie les enfants au sein de la famille. Voilà pourquoi nous, dans les cadres de notre projet, nous avons identifié les enfants déscolarisés mais qui vivent au sein de famille.
Vous associez les enseignants dans le travail que vous faites, mais vous associez aussi les parents. Pourquoi?
Oui, voilà, parce que nous estimons que ces deux acteurs, ils sont les contacts directs des adolescents. Et nous pensons que si nous leur fournissons des informations de meilleure qualité, ils peuvent facilement influencer le comportement des adolescents. Voilà pourquoi nous les avons associés. C'est suivant le modèle socio-écologique que nous avions mis en place et qui inspire tout notre programme, tout notre modèle qu'on appelle Bien Grandir.
Ce projet a été lancé il y a exactement 3 ans. Si on vous demandait de faire un petit bilan de ce projet, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que le projet est sur la bonne voie parce que les premières années ont été consacrées à poser les bases. Nous avions organisé des formations, des enseignants, des leaders communautaires, des récopés et même la formation des récopés sur comment mener les sessions vidéo. Et maintenant, là, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre. Nous sommes en train d'assurer le suivi. Et donc, je peux vous assurer que les quelques informations que nous avions mises à la disposition des adolescents les ont assimilées. Et même si vous parlez avec certains parents, on comprend qu'il y a quand même un début de changement de comportement qui s'installe.
Votre projet cible combien d'enfants à peu près? Combien d'adolescents?
Voilà, nous avons 1950 adolescents non scolarisés et nous avons autour de 10 000 enfants adolescents scolarisés.
Toujours à Tiangou?
Toujours à Tiangou.
Alors, pour terminer, quelles sont vos perspectives?
Voilà, nos perspectives, c'est que nous avions mis en place un modèle qui est vraiment une première dans les interventions ciblant les adolescents. Nous espérons que ce modèle va pouvoir produire des résultats de manière à ce que le bailleur de fonds puisse s'intéresser à ce design pour que ce projet soit mis à l'échelle au niveau d'autres provinces, au niveau d'autres zones de santé, même ici à Kinshasa.
Et vous parlez des bailleurs qui financent finalement votre projet?
Le projet Bien Grandir Plus, implémenté par Save the Children et financé par les Affaires Mondiales Canada.
Bon, Madame Pascaline Palama, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
À présent, nos nouvelles en plus bref, avec la MONUSCO d'abord, pour signaler le retour en RDC de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Madame Leila Zerougui est rentrée cette semaine plus tôt que prévu en raison du report des événements auxquels elle devait participer aux États-Unis et en Allemagne. Le porte-parole de la MONUSCO a annoncé ce retour au cours de la conférence de presse des Nations Unies en soulignant néanmoins que la chef de la mission avait rencontré à New York des partenaires de la RDC, notamment des membres du Conseil de sécurité, membres permanents et membres non permanents, ainsi que des représentants des pays fournisseurs des contingents à la MONUSCO. MONUSCO toujours, 200 policiers des Nations Unies, dont 84 femmes, 40 militaires et 10 civils de la mission, armés de pelles, râteaux, balais notamment, ont participé au nettoyage et à l'assainissement des artères principales du centre-ville de Kinshasa. C'était le samedi 7 mars, à la veille de la journée de la femme. La base de la MONUSCO à Utex, l'avenue Wagenia du quartier général UN Paul au rond-point Forescom, le boulevard du 30 juin, figure parmi les sites assainis. Enfin, 621 millions de dollars, c'est le budget du plan régional 2020-2021 du ACR et ses partenaires pour le soutien aux réfugiés de la République démocratique du Congo dans les pays voisins. La majorité des Congolais vivent en Ouganda, soit près de 400 000 personnes. Les autres pays d'accueil des réfugiés de la RDC sont le Burundi, plus de 84 000, le Rwanda, plus de 75 000, la Tanzanie, plus de 75 000, la Zambie, 50 000, l'Angola, 23 000, et le Congo-Brazzaville, 21 000.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dans le cadre du projet de politique de diligence voulu en matière des droits de l'homme initié par la MONUSCO, le Bureau conjoint des droits de l'homme à Beni forme depuis quelques jours des militaires FARDC engagés sur les différents fronts, sur les notions des droits de l'homme, mais aussi sur le droit humanitaire international. Martial Papimoukeba s'entretient à ce sujet avec Maître Alain Awazi du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Maître Ali Awazi, bonjour.
Bonjour.
À quoi consiste la sensibilisation que vous organisez à l'intention des militaires, hommes des troupes et commandants et FARDC dans la région de Beni?
La sensibilisation consiste tout simplement à renforcer les capacités en matière des droits internationaux humanitaires, des droits de l'homme, des violences sexuelles et d'autres sujets des droits pénaux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone opérationnelle et toutes les troupes sont impliquées dans les opérations de grande envergure contre les groupes armés, en l'occurrence les ADF et le Mai Mai. C'est pas que nous avons des craintes, c'est d'abord notre mandat de contribuer à la formation professionnelle des militaires, des policiers, des éléments de l'ANR et même de la DGN. Donc nous sommes en train d'exécuter notre mandat. Et aussi, quand il y a généralement des opérations militaires, les risques de violation des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaire est évident. C'est dans ce sens-là que nous avons organisé ces activités pour essayer d'influencer les comportements des militaires pour ce qui concerne la protection des civils en lien avec les violations des droits de l'homme.
En termes de chiffres, combien de militaires sont ciblés par cette sensibilisation?
Alors, je ne saurais pas être exact en termes de chiffres. D'abord, il faut rappeler que ça, c'est une continuité d'un programme qui a commencé depuis 2019. On a commencé par la formation des commandants des grandes unités et on a organisé un atelier à Beni, un atelier à Butembo et un atelier à Lubero. Et en tout, 163 officiers ont été formés dans le matière que je venais d'évoquer. Alors, cette deuxième phase qui consiste à sensibiliser des troupes, c'est pratiquement toutes les troupes qui seront accessibles. C'est clair qu'on ne pourra pas arriver partout parce que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous avons reçu l'appui du commandant secteur qui nous a autorisé de faire ce travail parce qu'il a compris l'importance du respect des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires. C'est ainsi que notre méthodologie, c'est d'aller vers les troupes, d'aller vers des positions militaires, là où c'est accessible. Du coup, c'est difficile de vous dire avec exactitude combien de troupes nous allons atteindre, mais au moins on espère que nous allons sensibiliser plusieurs militaires des troupes.
Est-ce que vous avez des partenaires qui interviennent également dans cette sensibilisation?
Effectivement, nous avons des partenaires. Vous savez, et ce projet de formation, ce projet de sensibilisation est né de notre comité de suivi des violations des droits de l'homme. Ce comité est présidé par le commandant directeur opérationnel, Soukola 1 Grand Nord. Et nous, au sein de ce comité, nous, BCNDH, nous assumons le secrétariat. Et d'autres membres sont les organisations des droits de l'homme et aussi la coordination de la société civile. Donc, comme le projet est né dans le cadre des comités de suivi, nous travaillons avec les ONDH, à l'occurrence, les Great Lakes Human Rights Program, le SOFEPADI et même l'AZADO. Donc, ils nous accompagnent dans toutes ces stabilisations et même la condamnation de la société civile. Ces ONGH sont des spécialistes en matière de violences sexuelles. Et comme parmi les thèmes que nous développons, aux troupes, il y a les violences sexuelles, ces organisations nous aident à développer des thèmes en rapport avec les violences sexuelles.
Quelles sont vos attentes à l'issue de cette sensibilisation?
Nos attentes sont telles que nous espérons que ça va influencer positivement le comportement des troupes dans le sens du respect des droits de l'homme, droits internationaux humanitaires, violences sexuelles, et pratiquement tous les autres aspects de protection pendant les opérations de grande envergure.
Maître Ali Awazi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Nous l'avons dit en titre, les FARDC et la MONUSCO intensifient leur collaboration dans la traque des ADF dans le territoire de Beni. Objectif, sécuriser la population de cette partie de la RDC. Cette collaboration concerne plusieurs domaines. Elle permet actuellement aux FARDC d'identifier les campements des ADF grâce aux renseignements fournis par la MONUSCO. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Au centre de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO se trouve l'échange des renseignements dans les opérations des traques des ADF à Beni. Volet qui s'est intensifié depuis quelques jours, comme l'explique le colonel Claude Raoul, porte-parole militaire de la MONUSCO.
La collaboration avec les FARDC, c'est vrai qu'elle s'est intensifiée. C'est pourquoi les vecteurs aériens de la force, dont notamment le système d'acquisition et de reconnaissance, ont été utilisés de façon intensive ces derniers temps, de façon à pouvoir localiser de façon précise les éléments des groupes armés.
Le général Sylvain Ekengé, porte-parole adjoint des FARDC, confirme que ces actions menées par la MONUSCO permettent actuellement aux FARDC de localiser les campements des ADF.
Les drones de la MONUSCO identifient les positions des ADF où les ADF se cachent et nous traitons ces positions-là avec nos hommes, notre artillerie. Sinon, on n'allait pas identifier les caches des ADF qu'on est en train de bombarder. La MONUSCO est là pour nous appuyer en termes de renseignements, d'évacuation sanitaire, de livraison de notre logistique aussi dans la réhabilitation des routes.
Signalons également que les FARDC et les casques bleus mènent actuellement des patrouilles conjointes à Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Journée de la femme, mois de la femme, suivez cette question posée à la représentante de l'ONU Femmes en RDC, Madame Awandia Isek. C'était à la conférence des Nations Unies le mercredi 11 mars à Kinshasa.
Thierry Maï de l'Agence congolaise de presse. Madame, entre les années antérieures, cette année 2020, est-ce qu'il y a une évolution concernant la défense des droits des femmes, la solidarité et les autres choses? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport aux années antérieures?
Il y a une évolution et je donnerai juste deux exemples. Le premier exemple, c'est que vous avez vu une très forte mobilisation qui s'est passée il y a quelques mois. On ne sait pas si c'était réel ou non, mais il y avait eu, disons, une communication qui passait faisant penser que la présidente de l'Assemblée nationale était menacée. Et sans que qui que ce soit n'ait été à l'origine, il y a eu une très forte mobilisation des femmes à tous les niveaux qui ont vraiment exprimé leur point de vue pour aller défendre une femme qui, pour elle, représentait un symbole dans le cadre de la lutte pour les droits des femmes. Et nous avions été particulièrement impressionnés par cet élan unitaire des femmes, mais un élan qui était presque automatique. Le deuxième exemple, je l'ai évoqué même dans mon discours, c'est que la RDC a mis en place cette année, pour pour la première fois de son histoire le réseau national des associations de femmes rurales. Cela signifie que toutes les femmes qui sont dans l'agriculture, et quand on fait les décomptes, on se retrouve à plus de 20 millions de femmes qui sont actives dans l'agriculture, qui sont dans l'agriculture, qui vivent de l'agriculture. Mais elles n'ont jamais eu une plateforme nationale qui regroupe les différentes associations de femmes rurales. Et pour la première fois cette année, juste il y a quelques semaines, je pense que certains d'entre vous ont vu les images ou ont même assisté, ce réseau a pu être mis en place, le RENAFER, le réseau national des associations de femmes rurales, avec l'appui de ONU Femmes et de la FEC. Donc pour moi, ces deux exemples, et on aurait pu en citer d'autres, sont assez symptomatiques d'une prise de conscience qui est en train de se faire et également d'efforts concrets pour traduire cette prise de conscience en actes qu'on peut voir et qu'on peut suivre pour voir jusqu'où ça peut mener les efforts des femmes pour une meilleure prise en compte de leurs droits.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À présent, prenez votre agenda et notez cette semaine, 20 mars, journée mondiale sans viande, 22 mars, journée mondiale de l'eau. Voilà, par ici nous bouclons ce numéro de magazine des Nations Unies, coordonné et réalisé par Jean-Pierre Elali Koko. Honoré Missengakal a été au reportage, Patrick Kassongwa à la technique et Belinda Bosuma, c'est moi. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Sachez que vous pouvez réécouter cette édition sur notre site www.radiocapi.net ou encore en rediffusion déjà ce dimanche à 19h05 et le mercredi à 14h05 heure de Kinshasa. Merci de nous rester fidèles.